Bonjour à tous. Je ne peux pas m'empêcher de commencer ce matin le partage avec vous sans remercier notre Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie encore cette semaine. Il y en a qui le savent déjà. Vous savez que ça fait quelques années que je fais des études d'expertise comptable et en novembre dernier, j'ai soutenu mon mémoire d'expertise et les résultats sont tombés cette semaine. Ça y est, je suis expert comptable. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci pour... Quand je repense à mon parcours, je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Revenons aux choses sérieuses. Je vais vous faire deviner un poème. Donc, je peux afficher... L'indice, c'est un poème. Un poème divisé en quatre parties qui parle d'un mystérieux personnage. Dans la première partie, il est caractérisé par son élection et son humilité. Dans la deuxième, le secret de son élévation réside justement dans son élection. Dans la troisième partie, il est caractérisé par sa persévérance, malgré le rejet, malgré la souffrance. Et dans la quatrième partie, ses souffrances, justement, deviennent l'objet, un instrument de délivrance, de salut pour tous les hommes. Je suis le poème qu'on a l'habitude d'appeler les Reynald. Les chants du serviteur. Donc c'est ce dont nous allons traiter, ce dont nous allons parler ce matin. Le peuple de Dieu a vécu une véritable tragédie au VIe siècle. Le royaume de Juda a disparu sous les coups de l'armée babylonienne et avec lui un peuple bien établi, bien visible, le peuple d'Israël. Son territoire, son temple, son roi. C'est l'exil. Et cet exil se double d'un accablement spirituel. Il est perçu comme le jugement divin sur l'infidélité d'Israël. La foi est remise en question. Dieu n'a-t-il pas abandonné son peuple? Faut-il encore espérer? Dans ces conditions, valait-il encore la peine d'espérer, de persévérer dans l'attachement à l'Éternel, d'avoir la foi, de vivre simplement à contre-courant? Ceux qui voulaient rester fidèles avaient pourtant besoin d'être encouragés, besoin de savoir qu'au-delà de l'exil, il y aurait un espoir pour le peuple de Dieu. Ils avaient besoin de savoir que leur foi n'était pas vaine et qu'au-delà de l'exil, Dieu avait un avenir pour son peuple. Et c'est alors infusé ce vouloir, cette foi, cette persévérance que s'emploie le prophète Ésaïe. Et c'est à cette période, justement, dans ces conditions que sont écrits les chapitres 40 à 66 du livre. Et telle était même la raison d'être de ces chapitres. Le prophète proclame en substance qu'au-delà de l'exil, Dieu conserve un projet de salut pour son peuple, pour ceux qui vont lui rester fidèles. Non seulement pour une délivrance à court terme, comme le retour de l'exil, mais surtout pour une délivrance éternelle, un salut éternel qui sera l'œuvre d'un mystérieux personnage, le serviteur de l'Éternel. Qui est donc ce serviteur de l'Éternel ? L'identification du serviteur est souvent controversée. S'agit-il d'Israël ? S'agit-il de Cyrus, l'empereur perse ? Ou s'agit-il du Messie ? Regardons Israël. Israël est en effet appelé au chapitre 41 du livre d'Ésaïe, verset 8, serviteur de l'Éternel. Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, et descendance d'Abraham qui était mon ami, toi que je suis allé chercher aux confins de la terre et que j'ai appelé de ses extrémités, toi à qui j'avais dit tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté, ne sois pas effrayé car je suis avec toi, ne sois pas angoissé car moi je suis ton Dieu, je t'affermis, je viens à ton secours. Israël est en effet appelé serviteur de l'Éternel, mais à la lecture de ce passage, on comprend que Dieu vient rassurer ici son peuple, Israël, et vient de lui rappeler trois vérités fondamentales. Israël est le peuple choisi de Dieu. À la question de savoir Dieu a-t-il abandonné ou a-t-il rejeté son peuple, Dieu répond non, Israël est choisi par Dieu et non rejeté. Deuxièmement, Dieu rappelle à Israël que le Dieu d'Israël, c'est lui le Dieu vivant et vrai. Et troisièmement, il rappelle à Israël que malgré l'exil, il vient, Dieu vient à son secours pour l'aider. Israël est donc ici au bénéfice du salut promis par Dieu et non acteur lui-même de ce salut. Donc on peut déjà écarter Israël. Quant à Cyrus, au chapitre 41 toujours, à partir du verset 25, effectivement on voit surgir un homme. Verset 25, du nord, je fais surgir un homme, il va venir, oui, du soleil levant, il est appelé par son nom, il piétine les gouverneurs comme s'ils étaient de la boue, comme un potier foule l'argile. On voit surgir un autre serviteur que Dieu appellera au chapitre 44-28, son berger. Et je dis de Cyrus, c'est mon berger et il accomplira tout ce que je désire. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et il dira au temple, posez ses fondations. Dieu l'appellera aussi son oin. Chapitre 45, verset 1, ainsi dit l'Éternel à son oin, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour abaisser les nations devant lui et désarmer les rois, pour ouvrir devant lui les deux battants afin qu'aucune porte ne lui reste fermée, etc. etc. Cyrus, roi païen, a été choisi par Dieu comme un instrument de libération de son peuple. Et effectivement, c'est Cyrus, lors de la première année de son règne, qui annoncera que Dieu lui a demandé de construire un temple. Et il va demander qui sont ceux qui font partie du peuple de Dieu. Et il va permettre aux Israélites de retourner et construire à Jérusalem un temple à l'Éternel. Et cet événement démontre la souveraineté de Dieu qui, contrairement aux idoles qui ne sont que du vent, agit, dirige l'histoire, est capable même d'utiliser un païen pour accomplir ses desseins. Dieu qui est souverain et tout-puissant. Mais Cyrus agira par la force de ses armées. Il dit qu'il abaissera les nations, il désarmera les rois, contrairement à ce qui est présenté par les chants les caractères présentés dans les chants du serviteur. Serait-ce alors le Messie ? Le retour de l'exil apparaît comme une étape au salut promis par Dieu, mais n'est qu'un prélude aux événements nouveaux qu'annonce l'Éternel, à la nouvelle création. Pour la fête à venir, l'Éternel va envoyer son serviteur. Tout autre est la figure de cet autre serviteur qui est présenté justement dans les quatre chants du serviteur. Il est dépeint à la fois comme le nouveau Cyrus qui va amener une libération plus formidable que le retour de l'exil, comme un nouveau Moïse qui va conclure une alliance nouvelle avec le peuple de Dieu. Mais il est également et surtout dépeint comme le Messie qui sera rejeté par son peuple et qui connaîtra de dures souffrances, souffrances qui font partie intégrante de sa mission. Une mission qui se vit à travers le sacrifice de lui-même pour son peuple, dans la douleur, mais dans son silence, alors qu'il porte le péché de l'humanité. Une mission qui se vit également à travers son offrande de lui-même, jusqu'à être rejeté, traité comme puni de Dieu, mis à mort, sans que personne ne se préoccupe de son sort. Mais il reçoit une glorification contre toute attente, et son intercession pour les pécheurs en font une figure énigmatique. Vous l'aurez donc compris, le serviteur dont il s'agit, les traits de caractère dépeignent Christ. La prédication de ce matin fait partie d'une série de quatre prédications suivies, basées sur les chants du serviteur et qui ressortent du livre d'Ésaïe. Vous vous souvenez de l'épisode de l'eunuque éthiopien qui se retrouvait sur son char et qui lisait un texte, le texte d'Ésaïe 53, et le Saint-Esprit envoie Philippe le rencontrer. Philippe lui explique le texte qu'il lit, parce que l'eunuque éthiopien ne comprend pas. Et la Bible dit que Philippe, commençant par ce passage, lui annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et nous avons voulu donc revenir à ces quatre chants du serviteur pour vous annoncer, vous présenter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous aurez successivement, donc, aujourd'hui, le premier chant du serviteur, Christ, le serviteur envoyé. Dimanche prochain, Arnaud vous présentera le deuxième chant, Christ, le serviteur glorifié. Le troisième chant du serviteur sera ensuite présenté par Stéphane, Christ, le serviteur rejeté. Et Raph terminera présentant le quatrième chant, Christ, le serviteur brisé. Je vous invite donc à ouvrir Ésaïe 42 et nous allons lire les 9 premiers versets. Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit, et il établira la justice pour les nations. Mais il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau qui se ploie, il n'éteindra pas la flamme qui faiblit. Mais il établira le droit selon la vérité. Il ne faiblira pas, il ne ploiera pas, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur terre, jusqu'à ce que les îles et les régions côtières mettent leur espoir en sa loi. Car voici ce que dit l'Éternel Dieu qui a créé les cieux et les a déployés, lui qui a disposé la terre avec tout ce qu'elle produit, qui a donné la vie aux hommes qui la peuplent et le souffle de vie à ceux qui la parcourent. Moi, l'Éternel, moi, je t'ai appelé dans un juste dessein et je te tiendrai par la main. Je te protégerai, je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux aux aveugles, des aveugles, pour tirer du cachot les prisonniers de la maison d'arrêt, ceux qui habitent les ténèbres. Moi, je suis l'Éternel, tel est mon nom, et je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. Les prophéties anciennes se sont réalisées, et maintenant j'annonce des événements tout nouveaux. Et avant qu'ils germent, je vous les fais connaître. Le premier verset ne vous rappelle-t-il pas quelque chose ? Est-ce que maintenant que nous avons le Nouveau Testament, est-ce que nous ne voyons pas là un parallèle avec Jésus-Christ ? Je trouve que l'application de ce premier verset, qui fait partie justement du premier chant, le premier des quatre chants du serviteur, a été trouvé en la personne de Jésus. Regardez Matthieu 3, les versets 16 à 17. Dans Ésaïe, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit et il établira la justice pour les nations. » Dans Matthieu 3, dès que Jésus sort de l'eau, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu vient descendre sur lui comme une colombe et une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Je trouve qu'on retrouve dans ce passage de Matthieu à la fois l'aspect de l'élection. « Voici mon serviteur que j'ai choisi dans Ésaïe, qui fait toute ma joie, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc à la fois l'aspect de l'élection, mais aussi l'aspect du don de l'esprit. Je lui ai donné mon esprit, dans Ésaïe 42, l'esprit descend sur Jésus-Christ et une voix se fait entendre. Je trouve que c'est un formidable clin d'œil à ceux qui douteraient de l'identité de ce serviteur. Le premier verset s'applique à Jésus-Christ. S'il y avait encore un doute à dissiper, le Nouveau Testament, de toute façon, à plusieurs reprises, fait référence à ces chants du serviteur. Les prédications suivantes en reviendront certainement. Et le Nouveau Testament a identifié Jésus comme le serviteur de l'Éternel. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, versets 17 à 21, à partir du verset 15 même, l'évangéliste affirme que les versets 1 à 4 d'Ésaïe s'accomplissent en Jésus-Christ. Au verset 2, il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues. Fin du chapitre 1, il établira la justice pour toutes les nations. La mission de ce serviteur ne se limite pas seulement à Israël, mais aussi à toutes les nations. Et cette prophétie préfigure la venue d'un libérateur, donc pour toute l'humanité. Un libérateur qui se caractérise par son élection. Voici mon fils bien-aimé, voici mon serviteur que j'ai choisi. Et par son humilité, il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues. » Et c'est lui qui prendra soin des faibles et des opprimés. Au verset 3, il ne brisera pas le roseau qui se ploie, il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, mais il établira le droit selon la vérité. Il ne faiblira pas, il ne ploiera pas jusqu'à ce qu'il établisse la justice sur la terre. Qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu 28, verset 11 ? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je crois que cette promesse a été accomplie en Jésus-Christ. Et si cette promesse a été accomplie en Jésus-Christ, Dieu est encore capable aujourd'hui d'accomplir ce qu'il a promis en la personne de Jésus-Christ lorsqu'il a dit « Je vous donnerai du repos ». Encore aujourd'hui, si vous vous sentez fatigué, faible, chargé, votre roseau se ploie peut-être sous le poids de la souffrance, votre flamme faiblit-elle ? Il y a encore aujourd'hui de l'espoir. Jésus est capable de nous donner le repos parce que lui-même, il a connu la souffrance sans faiblir jusqu'à ce qu'il ait établi la justice de Dieu sur la terre, comme nous le dit le verset 4. Par sa mort sur la croix, en portant ton péché, en portant mon péché. Si on fait le point de ces quatre premiers versets, le serviteur de l'Éternel, le serviteur envoyé, est caractérisé donc par son élection, par son humilité. Il est envoyé pour porter les fardeaux, pour établir la justice de Dieu. Jésus a été choisi, l'élu de Dieu, et malgré son rang, il est resté humble pour porter nos péchés, pour porter nos fardeaux et établir la justice de Dieu par sa mort sur la croix. Prenons les versets 5 à 7. Oui, Jésus a été choisi par Dieu pour établir cette nouvelle alliance et être la lumière des nations. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé dans un juste dessein, je te tiendrai par la main, je te protégerai, je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. L'Épître aux Hébreux dit de Jésus qu'il a obtenu un ministère d'autant plus important qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Pour conclure une alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Jésus lui-même dit qu'il est venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Jésus a effectivement ouvert les yeux des aveugles. Nous avons l'histoire de Bartimée dans Marc 10. Nous avons l'histoire de l'aveugle né dans Jean 9. Mais je crois qu'également Jésus nous a ouvert nos yeux spirituels pour que nous puissions contempler Dieu dans toute sa splendeur. C'est intéressant d'ailleurs de voir encore le clin d'œil que Jésus fait et l'écho qu'il fait à ce passage lorsqu'il guérit l'aveugle né. Il dit à ses disciples qu'il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé, le serviteur envoyé, et pendant que je suis dans le monde, Je suis la lumière du monde. Et ensuite, la Bible nous dit dans Jean 9 qu'il prend de la boue et il applique sur les yeux de l'aveugle. Il guérit l'aveugle. Le serviteur envoyé, qui fait les œuvres de celui qui l'a envoyé, envoyé pour être la lumière du monde, et Jésus dit à ses disciples, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et il ouvre les yeux des aveugles, comme nous le dit le verset 7. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Matthieu, dans son chapitre 4, applique aussi à Jésus cette prophétie d'Ésaïe, chapitre 9. Lorsque Jésus apprend que Jean-Baptiste a été arrêté, il se rend en Galilée. Et on sait que la Galilée était entourée de villes païennes qui entretenaient des relations commerciales avec donc la Galilée. Et Matthieu voit ici une préfiguration du fait que la bonne nouvelle du salut sera prêchée aux païens. Jésus rentre dans cette ville et Matthieu dit qu'une lumière, que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit la lumière et ceux qui habitaient dans l'ombre de la mort, sur ceux qui habitaient dans l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. Je t'établirai pour tirer du cachot les prisonniers de la maison d'arrêt, ceux qui habitent les ténèbres. L'apôtre Paul, dans Colossiens 1, nous dit « Rendez grâce à Dieu, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Lui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En dehors de Christ, nous étions tous autant que nous sommes dans les ténèbres, esclaves du péché, prisonniers du péché. Mais Jésus, le serviteur de l'Éternel, a été envoyé pour nous libérer du péché. Et notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Sur cette deuxième partie, si on fait le point, Jésus est envoyé comme médiateur d'une nouvelle alliance, comme la lumière du monde et comme un libérateur. Les versets 8 à 9. Moi, je suis l'Éternel, tel est mon nom, et je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. Les prophéties anciennes se sont réalisées et maintenant j'annonce des événements tout nouveaux. Et avant qu'ils germent, je vous les fais connaître. Contrairement aux idoles, Dieu est capable d'annoncer des événements lointains, d'événements nouveaux, parce que c'est lui-même qui va les accomplir. Les idoles ne sont que néant. Et au chapitre 41, justement, il est dit, les versets 21 et 23, « Vous, les dieux des nations, présentez votre cause, dit l'Éternel, exposez votre argument, dit le roi de Jacob. Qu'il les expose donc, qu'il nous annonce ce qui doit arriver. Déclarez-nous quels sont les faits passés que vous avez prédits, pour que nous les examinions et que nous constations leur accomplissement, ou faites-nous entendre ce qui doit arriver. Annoncez-nous les choses qui doivent survenir plus tard, et nous saurons que vous êtes des dieux. Oui, faites quelque chose, que ce soit bien ou mal, afin que le voyant, la crainte nous remplisse. Mais les idoles, qui n'étaient que du vent, ne pouvaient rien accomplir. Et contrairement à Dieu, qui est le Dieu vivant et vrai, qui est capable d'annoncer longtemps à l'avance des événements tout nouveaux. Et au verset 5, Dieu nous rappelait que dès les origines, il a créé toutes choses. Voici ce que l'Éternel dit, l'Éternel Dieu qui a créé les cieux, qui les a déployés, lui qui a disposé la terre avec tout ce qu'elle produit, qui a redonné la vie aux hommes, qui la peuple et le souffle de vie à ceux qui la parcourent. Si Dieu a été capable de faire cela, de créer à partir de rien, de créer une première fois, il est également capable de faire germer une nouvelle création. Germer une nouvelle création, non seulement dans notre cœur, en nous affranchissant du péché, en nous affranchissant du vieil homme, pour que nous devenions une nouvelle créature, mais aussi en créant de nouveaux cieux et une nouvelle terre, couronnant ainsi cette nouvelle alliance amenée par son Fils Jésus-Christ. Si les prophéties anciennes se sont réalisées, comme l'est dit au verset 9, ce que Dieu annonce aujourd'hui, il l'accomplira également. On connaît ce verset dans Nombre 23, 19 qui dit « Dieu est-il un homme pour mentir ? Le fils d'un homme pour se repentir ? Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas ? » Au-delà de l'exil, qui n'est qu'un prélude aux choses nouvelles, aux nouveaux événements, Dieu, dans ce passage, évoque le projet du salut, présenté comme une nouvelle création qui va germer et progressivement pénétrer et transformer l'histoire de l'humanité. Et par la même occasion, établissant une nouvelle alliance en sa personne. Cette personne que Ésaïe appelle le serviteur de l'Éternel. Pour conclure ce premier chant, c'est bien Christ qui est dépeint par le premier chant du serviteur dans lequel il est caractérisé par son élection, par son humilité. Et je vous laisse avec ce verset. Bien qu'existant en forme de Dieu, Christ n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Il ne faiblira pas, il ne ploiera pas jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur terre. Amen.